Kiosque Magazine.
Bonjour à tous, nous sommes le 12 juin 2015. Bienvenue à Kiosque Magazine. Je m'appelle Charles Roy et je suis accompagné de Jean-Philippe Vachon. Bonjour Jean-Philippe.
Bon matin Charles.
De quoi tu veux nous parler aujourd'hui?
On va parler de plusieurs sujets différents, évidemment toujours dans les loisirs et la culture. On va commencer en parlant d'un groupe qui sera à Montréal ce soir.
OK.
Et pour une bonne partie de la semaine, on va parler de U2. Mais je vous en parle
U2...
plus tard. Ça te dit rien? Moi non plus, ça me dit rien avant de lire l'article pourtant.
Oui.
On va s'informer tout à l'heure.
Merci.
Je vais parler d'une union musicale également très intéressante. C'est des comédiens qui font son en musique. On regardera ça ensemble aussi. On parle de Diane Dufresne également, d'Andy Warhol, d'un trésor national et de Romain Duris, un acteur français que j'aime énormément.
À Victoriaville, il y a un marathon de théâtre qui va se lancer très bientôt. Je vous ai parlé de la programmation estivale de Gatineau.
Oui.
Et maintenant, c'est autour de Trois-Rivières. Je vais vous parler aussi d'une exposition consacrée à Marc Favreau ou Sol. Je vais vous parler en cinéma du film Nuit et de l'art japonais à Québec. Alors, U2.
Ben oui, U2 qui sera à Montréal dès ce soir, demain et le 16 et 17 juin prochain. Alors, une tournée qui s'arrête quatre fois plutôt qu'une quand même à Montréal. Alors.
Et le titre de ton article, c'est « Une tournée intime pour le groupe irlandais ».
Il faut le préciser parce que c'est très intime comparé à ce qu'ils ont fait avant. En fait, je vous explique, dans cet article-là de Raphaël Gendron-Martin, on nous parle de la tournée de U2 qui s'appelle « Innocence Experience ». Alors, dans cette tournée-là, U2 a décidé de faire vraiment des arénas plutôt que d'aller monter des salles l'extérieur, comme ils avaient fait la dernière fois. Alors, l'année 2014, qui n'a pas été des plus évidentes pour le groupe, d'abord et avant tout, je vous le rappelle, en septembre dernier, ils avaient marqué la sortie de leur album Songs of Innocence, un 13e album en carrière. Eh bien, le groupe avait mis en place un coup de marketing un peu inégalé. C'était d'offrir gratuitement le disque à tous les utilisateurs d'iTunes, un geste que les musiciens pensaient généreux, qui s'est finalement retourné contre eux. Il y a plusieurs internautes qui ont décrié le fait que le groupe avait imposé l'album sans moyen de le supprimer aux utilisateurs, et Bono qui avait même dû s'excuser publiquement, Apple qui avait ajouté un bouton pour pouvoir enlever l'album. Alors, par la suite, fin de la grogne pour cette partie-là. Et malgré tout, ce petit manège s'était avéré assez payant pour U2 parce que dans le premier mois suivant la sortie de l'album sur iTunes, l'album avait été téléchargé 26 millions de fois. Et lors de sa sortie, ce qui est dommage un peu là-dedans, c'est que c'était gratuitement offert. Alors, à quelque part, tout le monde l'avait. Donc, le nombre de téléchargements était un peu... brimé,
oui, on peut pas avoir de comparaison vraiment.
Non, c'est ça exactement. Donc, c'est un peu étrange, mais bon. Et 8 mois après cette controverse-là, eh bien, Bono qui a confié au New York Times à quel point il était excité de voir ses nouveaux fans du groupe aller, donc être présents pour la tournée Innocence Experience. Alors, avec cette tournée-là, U2 qui a opté pour une tournée plus intime. Alors, on y arrive, je vous en parlais tout à l'heure. Dans des arénas, un changement après l'explosive tournée de 360 Tour, donc 360 Tour, qui avait mené le groupe dans plusieurs stades aux quatre coins du globe il y a 4 ans, donc à Montréal, c'était à l'Hippodrome, à l'extérieur. Il y avait énormément de gens qui avaient été voir ce spectacle-là. Et en appelant la tournée Innocence Experience et en annonçant au moins 2 concerts dans chaque ville visitée, U2 avait d'abord donné l'impression de vouloir donner des spectacles différents lors des 2 soirs. Alors, c'est vrai que ça peut porter à confusion. Les musiciens qui se sont ravisés finalement, puisque certains fans étaient inquiets d'être déçus, en fait, d'avoir payé pour le moins bon des 2 spectacles. Du côté d'Evenco, on a mentionné au Journal de Montréal, duquel l'article dont je vous parle est tiré, que les 4 concerts que U2 vont donner à Montréal dans quelques jours ne seront pas si différents les uns que les autres. Alors au programme donc beaucoup de nouvelles pièces de l'album Songs of Innocence, la formation qui en a fait 8 lors de chaque soir à Vancouver, mais aussi une importante portion de vieux succès évidemment. Selon le New York Times, en fait à ce jour, il y a 1,2 million de billets, soit 98% des billets disponibles pour les 68 concerts de la tournée qui ont déjà été vendus. Bonne nouvelle, il reste encore quelques petits billets à Montréal, si ça vous intéresse. Je vous le rappelle qu'ils sont ce soir, demain, les 16 et 17 juin également au Centre Bell. Vous pouvez avoir tous les détails sur le evenco.ca, mais c'est assez particulier de se dire que U2 était de passage à Montréal en 2011, si je ne me trompe pas. Et justement, ils avaient fait l'Hippodrome de Montréal, une salle extérieure immense, leur propre salle qu'ils avaient déménagée. Et là, ils se plient un petit peu, dans le fond, au choix de la ville de Montréal et de se dire que, bon, on va faire un aréna, un Centre Bell, c'est tout petit, c'est intime. Ouais.
On vient, oui, d'entendre U2, Bloody Sunday, qui fait référence à une guerre civile en Irlande qui s'est déroulée le 30 janvier 1972. Je vais maintenant, on se déroule maintenant, on se déroule, on se dirige maintenant à Victoriaville, où l'organisation du théâtre le Festival du théâtre amateur de Victoriaville présentera une quinzaine de pièces sur 2 semaines. Ce sont les mots de Yannick Poisson dans la tribune « Marathon de théâtre à Victoriaville » paru le 7 juin dernier. Du 19 au 28 juin, à l'Auditorium de la Polyvalente de Boisé, aura lieu ce festival, ainsi qu'à l'Agora de la Place Sainte-Victoire. Fort du succès obtenu lors des 2 dernières éditions, l'événement accueillera cette année 14 troupes de théâtre amateurs provenant d'un peu partout au Québec. On compte sur une belle représentation de la région montréalaise, de Québec, du centre du Québec et de l'Estrie. La troupe La Cellule de Sainte-Camille y présentera notamment la pièce Aziz telle quelle de Simon Boudreau, une présentation que l'on réserve aux 13 ans et plus quand même à cause de son langage corsé. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, Jean-Philippe, de voir cette pièce-là originale montée à aujourd'hui.
Malheureusement.
C'est à voir. C'est vraiment un beau texte. La troupe de théâtre des employés du CHUS sera également de la partie. Elle offrira le 27 juin, en début d'après-midi, la pièce « Le café inéquitable » écrite par Stéphane Baillargeon. L'imposante délégation œuvre pour le plaisir et pour amasser de l'argent pour la fondation du centre hospitalier. Le festival culminera le 4 juillet avec la présentation du gala de fermeture, au cours duquel on remettra une douzaine de prix ainsi que des bourses aux meilleures troupes. L'an dernier, c'est le théâtre de la petite majuscule de Brownsburg-Chatham qui a mis la main sur le premier prix, celui de la meilleure comédienne et celui du meilleur décor. La troupe sera de retour pour présenter la dernière pièce du festival le 28 juin en soirée. Par ailleurs, l'organisation du festival a mandaté la comédienne Brigitte Carpentier pour agir comme porte-parole. Originaire de la région, cette dernière a notamment fait partie de la troupe du théâtre Parmi nous, en plus de jouer dans Virginie, Annie et ses hommes et Les poupées russes au petit écran. Le festival, je vous le rappelle, aura lieu du 19 au 28 juin à Victoriaville.
Alors, il y a des unions civiles, il y a des unions musicales également.
OK.
Alors, je commence mon article comme ça. Alors, c'est un article, en fait, qu'on retrouve dans le Journal de Montréal qui nous parle de comédiens qui font le saut en musique. C'est déjà le cas de plusieurs. On pense, entre autres, à Sylvie Moreau, à Caroline Néron. Bon, ça a plus ou moins fonctionné pour elle. Il y a Rémi-Pierre Paquin également. Mais là, on parle ces temps-ci d'Isabelle Blais et de Pierre-Luc Briand. C'est deux comédiens qu'on connaît bien. Alors, au sein des Batteux Slack, ils faisaient du folklorico-country. On appelle ça comme ça. Et dans Caïman Fou, elle privilégiait le rock planant. Alors ensemble, eh bien, ils chantent la bossa nova. Alors pourquoi pas? On va voir tous les genres avec eux. Alors c'est un article de Marc-André Lemieux dans le Journal de Montréal. Isabelle Blais et Pierre-Luc Briand qui ont surpris bien des gens cette semaine en lançant « Je suis belle », leur première chanson en duo. C'est le premier extrait d'un album à paraître cet automne et cette jolie balade estivale séduit avec ses accents bossa nova, ses bruits de vagues et son humour décalé. Alors nos univers musicaux se mélangent très bien. C'est ce que déclare d'entrée de jeu Pierre-Luc Briand en entrevue avec le journal. Ce n'est pas comme si je faisais du dance ou qu'elle faisait du country. Là, on aurait un petit problème de genre, mieux connu pour leur rôle au grand et petit écran, alors pour Borderline, CA pour elle, et Au secours de Béatrice et Crazy pour lui. Isabelle Blais et Pierre-Luc Briand mènent également depuis longtemps des carrières musicales séparément. La première a lancé 4 albums avec la formation Caïman Fou de 2003 à 2012, et le second a publié 3 opus comme chanteur des Battle Slack. Les deux acteurs ont songé à unir leurs forces musicalement en 2012, déjà en préparant la pièce de théâtre Midsummer, une pièce et 9 chansons, comédie romantique de David Gregg, Marie-Ange et Mélodie. C'est une production qui a nécessité un grand investissement du tandem. Je ne sais pas si tu avais déjà vu ou entendu
non,
cette pièce-là.
Non, absolument pas. On en avait parlé à l'émission, je m'en souviens, de Midsummer.
Ah, bon, ben voilà. Alors, référence à ceux qui étaient déjà à l'écoute. Alors, le fruit et leurs efforts ont été bien accueillis. Les deux comédiens qui planchent maintenant sur un album de composition originale pour le moment. 7 morceaux qui ont été enregistrés. Le reste du travail qui se poursuivra d'ailleurs cet été entre 2 journées de tournage. Comme on est ensemble dans la vie, c'est plus facile de trouver des plages horaires qui nous conviennent. C'est ce qu'explique le musicien musicien. Et dès qu'on a du temps, au lieu de regarder la télé, ben, on travaille sur notre album. Alors, c'est une belle façon de rentabiliser le temps. Pierre-Luc Briand qui promet un album qui combinera plusieurs styles et plusieurs influences. On ne veut pas faire un album qui sera trop plate. On essaie d'aller chercher des couleurs différentes pour chacune des chansons. On explore. Trois petits points. On aime ça comme ça. Alors, le couple qui pense déjà au spectacle qui accompagnera le disque, on essaie de voir aussi comment les versions studio peuvent être transposées sur scène. C'est ce que note Pierre-Luc Briand encore une fois, et le paysage musical étant ce qu'il est, on essaie de réduire les effectifs, on essaie de choisir des chansons qui peuvent bien se faire à deux. Alors, c'est bien de penser un album en fonction de ce qu'il va devenir sur scène. C'est une belle union musicale, ça.
À Trois-Rivières, concert, champêtre, marionnette intégrant, intrigante, oui, pièce de Shakespeare sur la plage, art visuel en plein air et piano mis à la disposition des passants, ce seront les activités culturelles qui prendront place cet été. Linda Corbeau dans Le Nouvelliste nous en parle. Les activités culturelles au grand air pour l'été, c'est le titre de l'article paru le 10 juin. Toutes ces activités sont offertes à la population gratuitement par la Coopération des développements culturels de Trois-Rivières, si bien que pendant tout l'été, un promeneur pourra, s'il le souhaite, profiter d'un menu artistique varié, sans même dépenser un sou. Cet été, une nouveauté, le théâtre s'installera sur la plage de l'île Saint-Quentin, en bordure du fleuve. C'est dans ce cadre enchanteur que la troupe des Nouveaux Compagnons offrira aux gens quatre représentations de la pièce « Le songe d'une nuit d'été » de William Shakespeare le 14, 21, 28 juillet et le 4 août à 20h30. En cas de pluie, une représentation pourra même être reprise au besoin le 11 août. Dans une autre forme de théâtre peuplée de marionnettes, celui-là, diverses compagnies en provenance du Québec, de la France et des États-Unis débarqueront à Trois-Rivières pendant trois week-ends pour faire vivre la 7e édition du Théâtre insolite. Comme le site habituel fait l'objet de travaux de rénovation, les activités seront toutefois déménagées cet été de l'église Saint-James jusqu'à l'église Sainte-Cécile. Les activités s'y dérouleront les 19 et 20 juin, les 10 et 11 juillet, ainsi que les 28 et 29 août dès 20h. Très populaire au cours des dernières années, la série Les concerts champêtres connaîtra pour sa part une 9e saison sous le grand chapiteau à air ouverte des Parcs des Chenaux. Du 21 juin au 23 août, tous les dimanches, des artistes de musique classique, de swing, de jazz, de latin, de musique traditionnelle ou populaire s'y produiront. 10 concerts seront offerts aux mélomanes qui se feront de plus en plus nombreux. L'an dernier, on a accueilli en moyenne 750 spectateurs par concert, avec un record de 1250 personnes présentes pour le spectacle de Gaétan Leclerc. Enfin, les arts visuels ne seront pas en reste. Les 18 et 19 juillet, une cinquantaine d'artistes proposeront leurs œuvres au Symposium des Parcs des Chenaux, que ce soit en peinture, en sculpture, en photographie ou en art numérique imprimé. Sous le thème de Mélancolia, la Biennale internationale d'estampes contemporaines s'étendra pour sa part du 21 juin au 6 septembre au centre d'exposition Raymond Lantier de la Maison de la Culture ainsi qu'au centre culturel Pauline Julien. Cette année, 57 artistes en provenance de 26 pays y présenteront quelques 300 œuvres. Donc, à suivre pour Trois-Rivières, c'est un été culturel.
Je suis venu ici parce que l'air du dehors, quand l'hiver s'installe, change de profil, semble sortir d'un réfrigérateur. Quand l'hiver s'installe, change de profil, moi qui suis toujours dans le trop. La profusion des sentiments, des émotions, cet air glacé me fait du bien. ici parce que l'air du dehors, j'aime mes idées noires, change mon profil, je semble sortir d'un réfrigérateur. Quand l'hiver s'installe sur ma terre d'asile, moi qui suis toujours dans le tout, la confusion des sentiments, des émotions, cet air glacé me fait du bien. Je suis venu ici parce que l'air du dehors nettoie mes armoires, change le soleil, sorbet citron au réfrigérateur. Quand l'hiver s'installe, glace qui brille, moi qui suis toujours dans le rouge. L'ébullition des sentiments, des émotions, cette lumière givrée me fait du bien. Je suis venu ici parce que l'air du dehors de ce peuple de chaleur.
On vient d'entendre l'air du dehors de Jérôme Minière. Jérôme Minière qui sera en spectacle dans le cadre des Francofolies au Club Soda le 16 juin à 19h.
Les Francofolies qui battent leur plein d'ailleurs, on s'en reparlera tout à l'heure, là, mais grosse soirée hier soir de lancement. J'étais pas là.
Ah non.
Et je regrette de ne pas y avoir été.
Non. Des beaux témoignages. Oui, on en parle tout à l'heure.
On en parle tout à l'heure. Une autre femme qui est habituée avec les Francofolies, qu'on aime beaucoup, c'est Diane Dufresne. Mais on se déplace du côté de Repentigny dans cet article-là. C'est dans le Journal de Montréal du 6 juin dernier. Elle prête son nom au Centre d'art et de création. Alors, ce nouveau Centre d'art et de création de Repentigny à l'est de Montréal portera le nom désormais de Diane Dufresne. L'annonce qui a été faite mardi de la semaine passée par l'administration de la mairesse Chantal Deschamps, qui a dévoilé l'enseigne du bâtiment. Alors, ce Centre d'art Diane Dufresne, conçu par l'architecte Maxime-Alexis Frappier de la firme ACDF, sera inauguré cet automne au terme de travaux de 4 millions de dollars. Le quart de la somme provient de contributions du milieu institutionnel et du monde des affaires également. Alors, Diane Dufresne, qui vit ce grand rêve avec nous, c'est un très grand honneur pour nous que Mme Dufresne ait accepté de prêter son nom à ce nouvel équipement, un équipement culturel qui se distingue par l'audace de son architecture et par sa vocation pluridisciplinaire. Et ça, c'est la mairesse Deschamps qui en parle de ce matin. Alors, Diane Dufresne qui a ajouté le dessin et la peinture à son talent d'interprète qu'on lui connaît déjà. Elle avait montré le fruit de son travail au Centre d'exposition de Repentigny en 2011 dans le cadre de l'événement A2 avec son complice Richard Langevin. Près de 3500 curieux avaient défilé sur la place pour l'occasion pour voir ses œuvres. Et le Centre d'art Diane Dufresne, qui sera doté d'une vaste salle d'exposition, aura une superficie de 1365 mètres carrés. Il disposera également d'une salle multifonctionnelle, d'un espace d'enseignement consacré à la musique et à la création musicale en collaboration avec la commission scolaire des affluents. Alors, c'est un projet qui est porteur d'avenir, c'est ce qui a été longuement réfléchi. Il a reçu un appui important de la communauté d'affaires, des organismes et de la communauté qui ont partagé la vision. Et donc, c'est celle d'un lieu unique qui créera une nouvelle effervescence économique au centre-ville de Repentigny. Alors, ce lieu qui fera rayonner la ville, il sera le théâtre de rencontres et d'échanges rassemblant toutes les générations. Et c'est là une réalité qui est aujourd'hui à nos portes. Et c'est ce que conclut Mme Chantal Deschamps.
Il a choisi de regarder le monde d'en bas, a pris le point de vue d'un enfant et de l'itinérant et a pris le parti du rire. De qui je parle? Mais je parle de Marc Favreau dans son personnage de Sol, qui sera l'honneur dans une exposition hommage à Sutton. Caroline Monpetit dans Le Devoir nous en parle. Le sol connu de Marc Favreau. Le clown de sol, alias Marc Favreau, a aussi longuement vécu dans le village d'Abercorn, à quelques kilomètres de Sutton, comme d'ailleurs son ami comédien Luc Durand, devenu Goblet dans l'émission pour enfants Sol et Goblet. Le petit musée de la ville de Sutton présente donc jusqu'au 25 octobre l'exposition Sol, Sutton extraordinaire, Favreau en sol connu, rendant hommage à Sol et à son œuvre. L'exposition retrace le parcours de Marc Favreau d'abord, un jeune homme né à Saint-Léonard, élevé à Notre-Dame-de-Grâce, rebelle dans l'âme, oui, il a été réfractaire à l'autorité. À l'adolescence, il a été agité, dit-on, et dissipé. Il se fait entre autres expulser du collège Saint-Laurent pour y avoir possédé un calendrier avec une photo de femme nue. Enfin, c'est en Europe que Favreau connaîtra sa femme. Non, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai sauté une ligne. C'est en Europe que Favreau... excusez-moi, mais c'est en Europe que Favreau, qui a vécu 2 ans avec sa femme, a surtout puisé son inspiration de Sol, explique Richard Leclerc, le directeur du musée. Monsieur Leclerc donne aussi une circonférence de Sol. Sol et Bim, et plus tard Sol et Goblet, s'inspirent des clowns rouges et des clowns blancs de la Commedia dell'arte. Donc, ces deux clowns sont expliqués dans cette exposition-là. Quoi dire d'autre? Oui, on dit que ce sont sans doute les costumes authentiques de Sol qui sont les plus émouvants. C'est ce qui forme le clou, de l'exposition. Prêté par le Musée de la civilisation du Québec, il trône au milieu de la pièce, comme surgit du passé, émouvant, dégageant un parfum de nostalgie. On peut voir aussi le costume de Sol que Sol portera dans ses spectacles en solo et la poubelle et la flûte qui lui servaient d'accessoires. Autre pièce marquante de l'exposition, c'est un épisode de l'émission Second Regard, dans lequel Marc Favreau s'entretient longuement avec Alain Crevier. L'homme y aborde ses préoccupations morales, sa perception de la bonté et du fait de vieillir. Marc Favreau s'est éteint à Montréal le 17 décembre 2005, donc on célébrera plutôt son 10e anniversaire de décès ce décembre. L'exposition, je le répète, est à Sutton jusqu'au 25 octobre. Dans le Vieux-Port de Montréal, parce que la science, c'est vraiment cool, les jeunes sont conviés dès demain à participer en grand nombre au festival Eureka. Plein d'activités sont prévues pour les scientifiques en herbe dans le cadre de cette 9e édition. Des courses obstacles, des animations théâtrales, des expérimentations, des jeux. Qui a dit que la science était ennuyeuse? Personne. Pas loin en périphérie du Centre des sciences au Vieux-Port de Montréal, entre le quai Alexandra et le quai Jacques-Cartier. Info, festivaleureka.ca. C'est demain, samedi et dimanche. On se laisse le temps d'une courte pause. On revient tout de suite.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
On est de retour et on s'en va maintenant en cinéma.
On s'en va en cinéma et on s'en va avec nos cousins français. On va parler surtout de Romain Duris. Alors, c'est un acteur qu'on a vu, entre autres, dans L'écume des jours, dans Les poupées russes, L'auberge espagnole. Donc, c'est des films quand même très populaires qu'on a bien aimé ici au Québec. Et on en parle avec un article d'Isabelle Monteberry dans le journal de Montréal du 6 juin dernier. Romain Duris en talons hauts. Alors voilà, ça sonne une cloche déjà. François Ozon qui a choisi Romain Duris pour tenir le rôle d'un homme qui se travestit en femme. Loin des clichés et de la caricature, le réalisateur français explore finement les changements sociaux et amoureux de ce début du 21e siècle. On sait justement, le transgenre est énormément populaire ces jours-ci. On en parle énormément, notamment avec, je ne me rappelle pas le nom,
Jennifer...
Ah, je ne me rappelle pas son nom. Bref, je vous en reparle tout à l'heure.
Oui. Il y a parenthèse comme ça. Le Rémi qui s'en occupe.
Rémi s'en occupe, excellent. Oui. On en reparlera tout à l'heure. Alors, on revient à cet article-là, donc La fin heureuse qui est volontaire. Je voulais montrer qu'il n'y avait rien d'anormal. Je souhaitais offrir à ces personnages un vrai happy end hollywoodien. Alors, c'est une volonté presque politique parce que j'ai fait un film à un moment où, en France, il y avait beaucoup de débats contre le mariage gay, il y avait beaucoup de manifestations contre le fait de donner des droits à des gens qui voulaient créer une famille autrement. Alors, c'est vrai que le film était un peu un pied de nez à tous ces gens-là. C'est ce qui explique le scénariste et réalisateur François Ozon. Alors, le film Une nouvelle amie, c'est David qui vient de perdre sa femme, Laura, et la meilleure amie de cette dernière, Claire, qui le surprend un jour habillé en femme, activité à laquelle il lui avoue se livrer couramment. Alors, naît alors entre ces deux personnages une amitié ambiguë qui évolue au long du film, et rien n'échappe au regard acéré de François Ozon qui explore tout en légèreté la sexualité, celle de Claire notamment, ne pouvant pas être résumée en quelques mots. Le film qui est là pour poser des questions, et je me suis d'ailleurs rendu compte en rencontrant le public que les gens interprètent la fin de manière différente. Alors j'avais envie de cette fin ouverte, de dire que tout est possible, qu'il n'y a pas de norme établie. C'est ce qu'explique encore une fois M. Ozon. En David ou Virginia, son alter ego féminin Romain Durie, qui crève l'écran semble-t-il, le comédien le plus enthousiaste est à l'aise avec le fait d'être grimé en femme. Lors des auditions, c'est dûment préparé pour son rôle. C'est pas du tout quelque chose que je lui ai demandé, mais il a voulu maigrir parce qu'il voulait rentrer dans de petites robes et avoir une jolie taille. Alors évidemment, c'est très drôle. Il était très coquet. Il y a aussi vu une coach, une danseuse qui lui a appris à marcher avec des talons et avoir des gestes plus féminins. Alors si ce film, Une nouvelle amie, est l'adaptation libre de la nouvelle Une amie qui vous veut du bien de Ruth Urendel, on y sent aussi la même légèreté que dans Une robe d'été, un court-métrage de François Ozon qui est sorti en 96 et dans lequel un jeune homme porte la robe de la jeune fille avec laquelle il vient de coucher justement. Et le cinéaste de conclure sur l'évolution du rôle traditionnel des hommes dans la société est construite sur un patriarcat depuis des siècles et depuis la fin du 20e siècle et le début du 21e, l'égalité des sexes est en train de se mettre en place. On n'y est pas encore arrivé, mais du coup, ça déboussole complètement les hommes qui ont eu l'habitude d'avoir la place du roi.
On vient d'entendre Yann Tiersen, le compositeur du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. La pièce, c'était La valse d'Amélie. Oui.
On a des informations dans les oreilles.
Oui, c'est
pour
ça. Excusez-moi.
Je vous parlais de Jennifer quelque chose. C'est pas Jennifer, c'est Caitlyn Jenner. Alors, d'où la petite différence. Alors, on parlait de transgenre. Voilà, on en parlait beaucoup ces temps-ci. Mm-hmm. On reparle en cinéma toujours.
Oui, oui. On va parler d'un festival. Excusez-moi, je suis dans le festival cet été. D'un film qui s'appelle Nuit. C'est un film canadien réalisé par Diane Poitras. Un film, dans son essence, dans son esprit, est à l'image de l'espace-temps qu'il cerne et raconte. Lent, mystérieux, clair-obscur, feutré, chaud et à sa manière lumineux. C'est comme ça que décrit le film André Duchesne dans La Presse. Ça a été publié le 5 juin dernier. Nuit de Diane Poitras n'est ni un documentaire traditionnel, ni une fiction, ni une tentative de cinéma-vérité. C'est davantage un conte, un témoignage, un constat, dégraissé de toute forme de commentaires, de sanctions ou de décrets. L'expression « essai cinématographique » suggérée par l'auteur est écrite et en excusez-moi, j'ai la misère avec cette phrase-là. L'expression « excès cinématographique » suggérée par l'auteur et écrite en exergue convient parfaitement à l'œuvre, donc. Dans les rues de Montréal et quelquefois à l'extérieur de l'île, Diane Poitras capte en 27 histoires de vie cette nuit montréalaise. Des vies anonymes, certes, et pourtant si grandioses dans cette charge de sincérité, d'introspection ou d'abandon qu'elle transporte le spectateur. Des vies, pour employer un horrible, mais très à propos, cliché, qui pourrait rassembler celles de chacun d'entre nous. Le choix d'Émilie Laliberté, porte-parole de l'Alliance canadienne pour la réforme sur les lois du travail du sexe, pour incarner une prostituée, est une brillante idée. La plus belle scène du film, dépouillée de toute forme de voyeurisme, nous montre la jeune femme et son client quelques minutes après l'acte. On dirait un tableau du 17e siècle. Quelqu'un dans l'entourage du film nous a suggéré d'en faire l'écoute le soir en raison de son caractère zen. On ne saura mieux dire, on imagine aisément les spectateurs encore engourdis par tant de beauté sortir de l'excentrice et marcher, presque sans but sur le boulevard Saint-Laurent, la nuit se refermant derrière eux. C'est comme ça que se conclut l'article. Je le rappelle, ce film s'appelle Nuit et est en salle à l'excentrice, entre autres.
On parle maintenant d'un trésor national, et quand je parle de trésor national...
On parle de moi, c'est ça?
Oui, exactement, Charles, t'as tout compris. Alors, on s'en va à la pause.
Alors, excuse-moi, je t'ai coupé dans ton intro, vas-y.
Il n'y a pas de problème. C'est un article d'Élisabeth Ménard, alors voilà, donc du samedi 6 juin, toujours dans le Journal de Montréal. C'est l'histoire du compositeur québécois André Mathieu, qui est à la fois belle et tragique. C'est en s'inspirant des hauts et des bas de sa vie que le duo de sculpteurs White & White a créé un bronze le représentant, l'œuvre qui a été installée devant l'appartement hôtel sur la rue Sherbrooke à la vue de tous. Alors évidemment, j'ai été vraiment bouleversé et triste de ne pas pouvoir déployer à sa juste mesure ce trésor, ce talent qu'il avait. C'est ce que confie Céline White au sujet de la vie d'André Mathieu. Elle et son frère Jean-Guy ont été mandatés par la famille Fournet, le propriétaire de l'appartement hôtel, pour créer un bronze du compositeur d'André Mathieu. Cette œuvre, installée la semaine dernière, représente un an et demi de travail pour eux, mais aussi la découverte d'un artiste au talent exceptionnel et au destin tragique. Je vous rappelle qu'André Mathieu est né à Montréal en 1929. Il a composé sa première œuvre au piano à seulement 4 ans. On le surnommait le Mozart québécois. À 7 ans, il a obtenu une bourse pour aller étudier le piano à Paris. Son œuvre la plus connue est son Concerto de Québec, composé à l'âge de seulement 13 ans. Alors, depuis plusieurs années, le compositeur Alain Lefebvre se bat pour la reconnaissance de cet enfant prodige québécois. Il a commencé tellement jeune, il était vraiment un génie, c'est ce que déclare Jean-Guy White, et ça m'a jeté à terre de découvrir son histoire. Le duo de sculpteurs affirme avoir eu une révélation en s'intéressant de plus en plus près à la vie et à la carrière d'André Mathieu. Bien sûr, il le connaissait de nom, comme un peu tout le monde, mais n'avait jamais réalisé l'immensité de son talent avant d'avoir étudié sa carrière. C'est sûr qu'à partir du moment où le projet nous a été confié, il y a eu une révélation de l'ampleur des compositions et du génie derrière l'homme. On s'est attaché à lui, on a lu sa biographie, on a écouté le film, on a fait plein de recherches sur le web, et un genre d'amour s'est développé pour ce musicien. On l'écoutait en sculptant et ça nous prenait. Il y avait quelque chose de magique dans cette œuvre-là. Alors l'œuvre de White & White, qui est composée d'un buste d'André Mathieu dans la vingtaine en équilibre sur une pièce qui représente son Concerto de Québec. Toute la composition du bas de la sculpture, outre le buste, représente le printemps de la vie d'André Mathieu, période pendant laquelle il a composé cette œuvre. C'est ce qu'explique Céline White dans l'article du Journal de Montréal. Jean-Guy et Céline White sculptent depuis de nombreuses années. Ils tiennent leur art de leur père, qui était lui aussi sculpteur. On leur doit une autre œuvre d'art installée en public, Bleu Cycle, un bronze représentant un père qui assure la sécurité et l'élan de sa fillette alors qu'elle s'apprête à sauter dans une flaque.
Thank you. Maintenant, à Québec, il y a une exposition qui s'appelle « L'inspiration Japon, des impressionnistes au moderne », qui trace une ligne d'horizon entre l'art japonais et celui de la Belle Époque. C'est intéressant de mettre les deux périodes en comparaison. Mm-hmm. Eh bien, Josiane Desloge dans le Soleil publie un article le 11 juin là-dessus, « Inspiration Japon au Musée national des beaux-arts du Québec, reflet japonisant ». Des œuvres du pays du soleil levant et de l'Occident y sont placées côte à côte en miroir, suscitant une réflexion sur le japonisme, cette fascination née après la chute du rideau de bambou. On sait que la rareté crée la fascination, indique Anne Escapas, la directrice des expositions de la médiation du Musée national des beaux-arts du Québec. Dès 1960, lorsque les relations commerciales ont été rétablies entre l'île nippone et le reste du monde, l'art, l'esthétique, le design et même la philosophie japonaise deviennent prisés par toutes les strates de la société occidentale. C'est plus qu'une mode, c'est un phénomène social, note Madame S. Escapas. L'exposition, baptisée en anglais « Looking East », a été conçue par le Museum Fine Arts de Boston et qui possède la plus vaste collection d'art japonais hors du Japon élaborée par de grands collectionneurs bostoniens dès la fin du 19e. Il s'agit toutefois de la première exposition que le MFA consacre au japonisme, a souligné Anna Burceau, responsable des expositions itinéraires de l'institution américaine. Celle-ci, passée par Nashville, Tokyo et Kyoto notamment, s'arrêtera à San Francisco après son été à Québec. Inspiration Japon se décline en quatre thèmes, les femmes, la vie urbaine, la nature et les arts décoratifs et paysages. Excusez-moi, j'ai perdu ma page. Mais j'y suis, ma tablette a fait des siennes ce matin. L'exposition est parsemée d'objets magnifiques rassemblés dans des vitrines en périphérie de la salle, des boîtes de papier à lettres, à poèmes ou à thé, des livres illustrés de gravures, une tapisserie, des gardes d'épée aux motifs de poissons, jusqu'à des chaises en ligne droite qui annoncent l'art déco. La scénographie élaborée par Guillaume Lord, inspirée des boîtes à secrets japonaises, invite le visiteur à déambuler dans une petite bulle colorée et intime à l'autre pour apprécier les œuvres agencées par thématique et par motif. Les œuvres les œuvres serties et dorures, des couleurs lumineuses et des traits fins ressortent étonnamment bien des murs jaunes, rouges, bleus et charbon. De nouveaux médias guides sur tablette permettent aux adultes et aux enfants d'avoir l'information supplémentaire sur les œuvres, ça peut vous intéresser à la maison, tout en les incitant à regarder attentivement celles-ci. Le Musée des beaux-arts le Musée national des beaux-arts du Québec dévoilera sa programmation estivale le 6 juillet. On vous tient au courant et cette exposition est là jusqu'au 27 septembre.
Yawarakana hi ga sashite
Thank you.
Charles nous parlait de Japon, justement, avec une exposition en art visuel, et c'est pratiquement ce qu'on vient d'entendre, une pièce de Pique Martini avec la chanteuse Sayori Ryuki. Alors, pardonnez mon accent très, très pas prononcé japonais.
Oui.
On se déplace maintenant à Sherbrooke avec une autre exposition qui se terminera aussi le 27 septembre 2015. C'est dans le journal La Tribune, un article de Steve Bergeron, Warhold, le graphiste, à Sherbrooke. Alors, il y a bien sûr la boîte de soupe Campbell, la bouteille de Coca-Cola, les portraits de Marilyn Monroe, de Mao Tse-tung, et certains plus férés en histoire de l'art réussiront aussi à nommer les 8 Elvis Presley, ainsi que la fameuse banane à peler qui illustrait le premier disque des Velvet Underground. Mais généralement, c'est là que se termine la liste des œuvres d'Andy Warhol que les gens sont capables de nommer. On sait que l'artiste est un incontournable qui a révolutionné la vision de l'art, mais la plupart des mortels en ignorent les détails et le pourquoi également. Et c'était mon cas, je vous l'avoue, je ne suis pas un connaisseur d'Andy Warhol, mais peut-être que si vous allez voir cette exposition à Sherbrooke, vous allez le devenir. Alors, est-ce qu'on peut faire le reproche à quelqu'un lorsque tout un pan de la production de Warhol, soit sa création graphique, est lui-même passé sous les radars pendant si longtemps, du milieu des années 1960 jusqu'au début des années 2000, il n'y avait que pour l'œuvre muséale de Warhol, ses tableaux, ses sculptures, parfois même son cinéma. Et depuis 15 ans, on redécouvre l'époque où, faisant ses classes, l'artiste new-yorkais est devenu un graphiste recherché dans l'univers de la publicité et de l'édition. Magazines, affiches, livres, pochettes de disques, des cartes postales, des timbres, des cartes de Noël, des étiquettes de bouteilles de vin. Il n'y avait aucun support ni aucun média qui n'était indigne de création pour cette figure de proue du pop art autrement dit. Il y a toujours quelque chose à découvrir avec Warhol et ce n'est jamais ennuyant. C'est ce que commente Paul Maréchal qui a commencé sa propre collection des créations graphiques d'Andy Warhol en 1996. Alors que certains artistes sont associés à deux ou trois sujets seulement, par exemple Rodin et l'étude du corps humain, j'ose dire que Warhol est l'artiste qui a traité du plus grand nombre de sujets dans sa carrière, notamment parce qu'il était capable de peindre, de sculpter, de filmer, de dessiner, de photographier, et ça rend son œuvre fascinante. La leçon fondamentale qu'il a donnée, ce n'est pas parce que le support ou le média est commercial qu'on ne peut pas faire une œuvre d'art avec celui-ci. L'exposition d'Andy Warhol, de graphiste, présentée donc tout l'été au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, est la quatrième organisée autour de la collection de Paul Maréchal. La première portait sur les pochettes de disques, la seconde sur les affiches et la plus récente sur les affiches et illustrations de magazines. Et grâce à la thématique plus générale du graphisme, l'exposition sherbrookoise permet de monter un éventail plus large avec parfois d'étonnantes découvertes, par exemple la maquette d'une BMW que Warhol avait peinte lors des 24 heures du Mans en 1979. Alors, le Pittsburghois d'origine a même illustré des livres pour enfants au point de songer pendant un temps à en faire son unique carrière. Alors, c'est plein de choses comme ça qu'on apprendra avec cette exposition-là. Paul Maréchal, qui a aussi amassé plusieurs des 65 pochettes de disques réalisées par Warhol, dont le célèbre Sticky Fingers des Rolling Stones, comportant une véritable fermeture éclair sur le devant de la pochette, et le premier album également de Velvet Underground avec sa phallique banane qu'on pouvait littéralement peler sur la pochette. Alors, c'est assez particulier comme exposition. Et donc, si vous voulez y aller, je vous rappelle que c'est à Sherbrooke, au Musée des Beaux-Arts. C'est Andy Warhol, graphiste. C'est jusqu'au 27 septembre 2015 et ça coûte seulement 10 $, 8 $ pour les aînés et 7 $ pour les enfants. Pas cher.
Nouvelle étonnante qui m'a jeté à terre, je savais pas que ça existait. Écoutez bien ça. La Canadienne Margaret Atwood est la première écrivaine à verser un texte inédit dans la Future Library d'Oslo, une capsule temporelle littéraire imaginée par l'artiste écossaise Cathy Peterson. Le livre sous-scellé ne sera dévoilé que dans un siècle exactement. Entre-temps, chaque année, un auteur versera un nouveau texte dans la banque avec interdiction formelle de l'en retirer avant 2114. Les tapuscrits seront rassemblés dans une salle dédiée de la nouvelle bibliothèque publique de la capitale norvégienne en construction. La pièce sera consacrée à la contemplation plutôt qu'à la lecture. Les noms des auteurs et des titres des ouvrages seront inscrits cependant au mur. Donc, si vous vivez jusqu'à 100 ans, vous pourrez patienter un petit peu avec les titres. Écoutez bien ça, c'est pas tout. Le projet a été dévoilé fin mai dans un terrain près d'Oslo où près de 3000 arbres ont été plantés. Dans un siècle, une partie de la forêt centenaire pourra être abattue pour imprimer les textes inédits décapsulés, enfin, si le papier sert toujours.
On en parlait tout à l'heure au début de l'émission, les francopholies qui sont en cours. Alors, depuis hier jusqu'au 20 juin prochain, au 20 janvier, bien sûr. Ça dure 6 mois, les francopholies. Donc, hier soir, il y avait évidemment Radio Alpha Rococo qui donnait d'entrée de jeu cette grande cérémonie de la musique francophone. Et ce soir, je vous rappelle en fait qu'il y a plusieurs spectacles gratuits si vous allez faire un tour. Il y a Caravane, La Bronze, il y a Corias également, Yves Desrosiers. Pour demain, ce sera Sarah Bourdon, il y a Canaille, il y a Émile Procloutier également au Jésus. Et c'est la grande soirée d'Alex Nevsky également, c'est gratuit. Plein de beaux spectacles dans le cadre des francopholies. Alors, je vous invite à aller faire un tour au quartier des spectacles.
La Société des arts technologiques inaugure ce mardi soir, donc mardi dernier, Cinéma urbain à la Belle Étoile, des projections de films qui tiendront tous les mardis jusqu'au 8 septembre à la Place de la Paix, boulevard Saint-Laurent, en face du Monument national. Le projet qui veut contribuer à une plus grande appropriation de la Place de la Paix par les Montréalais est mené en collaboration avec le partenariat du quartier des spectacles et de l'arrondissement Ville-Marie. La première soirée était consacrée à une sélection de courts-métrages provenant du festival Prends Secours. À signaler, le 30 juin, une soirée spéciale est concentrée aux 30 ans du film Retour vers le futur.
Moi, je demeure dans le quartier des spectacles encore une fois. Donc, on parle de la fête nationale qui aura lieu cette année à Montréal, le 23 juin premièrement, et aussi au quartier des spectacles, contrairement au parc Maisonneuve. Alors, ça a été annoncé cette semaine. Les artistes qui se produiront à Montréal seront Isabelle Boulay, Ariane Moffat, Daniel Bélanger, Patrice Michaud, Marie-Pierre Arthur, notamment. Il y en a quand même beaucoup. Alors, c'est sous le thème 8 millions d'étincelles que les festivités de la Saint-Jean auront lieu cette année. Et c'est Joël Legendre qui mettra en scène ce spectacle-là, justement, du côté de Montréal. Et on sait que c'est animé aussi par Louis-José Houde pour une deuxième année consécutive.
Une nouvelle à New York, le légendaire saxophoniste et compositeur américain Ornette Coleman est décédé hier à l'âge de 85 ans. Il a été un précurseur du free jazz et il est né au Texas. Il est mort à New York où il a fait l'essentiel de sa carrière. Son album de 59, The Shape of Jazz to Come, est considéré comme l'un des premiers albums avant-gardistes de l'histoire du jazz.
Et une autre personne qui nous a quitté cette semaine, l'acteur Christopher Lee, qui est reconnu pour ses interprétations magistrales de plusieurs méchants au grand écran, de Dracula à l'ennemi de James Bond, Scaramanga, alors qu'il est décédé à l'âge de 93 ans. Il a participé à plus de 250 films, obtenant les rôles mémorables comme celui du maléfique mage Saruman dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, le comte Dooku également dans Star Wars, La Guerre des Étoiles. Bon. J'ai fait la traduction, mais vous aurez compris. Pour plusieurs, il va demeurer le vampirique contre Dracula dans une série de films d'horreur des années 50 et 60. Après la guerre, l'homme de 1m93 a signé un contrat avec un studio britannique qui a passé la décennie suivante à tenir des rôles mineurs dans des films sans envergure. Il a également fait une courte apparition dans le Hamlet de Laurence Olivier en 1948. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Christopher Lee a marqué beaucoup de gens par ses films au cours des années.
La Société d'art vocal de Montréal organise sa vente annuelle à destination des collectionneurs et amateurs de musique. Il s'agit de 15 000 vinyles, livres en langue anglaise et française sur la musique et les musiciens, de partitions, de disques compacts neufs et usagés. La vente aura lieu entre le 18 et 27 juin au Café d'Art Vocal. L'adresse, je vous le donne, c'est le 1223 rue Amherst à Montréal, tout près d'ici. Information, je vous le donne, 514-397-0068.
Et dernière petite brève, rapidement, on a appris également qu'Olivier Dion allait camper le rôle d'Artagnan l'année prochaine, dans la comédie musicale Les Trois Mousquetaires à Paris. Ce sera en 2016 et 2017. Alors, un beau projet quand même pour un Québécois, et c'est le seul Québécois de la distribution française.
Wow.
Assez intéressant. Alors, eh bien, c'est déjà tout pour notre émission ce matin. Merci beaucoup, Charles.
Merci, Jean-Philippe.
Et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous invite à être des nôtres également dans la prochaine heure, dans les prochaines deux heures avec Clotilde de Seille au quotidien. Et je remercie également Rémi Hermoso à la mise en onde. Bonne journée.